Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
C'est un beau livre qui a aujourd'hui inspiré à Franck Ferrand le thème de l'émission. Bonjour Franck.
Bonjour Anissa, bonjour à tous. Le beau livre en question, incroyablement complet, est une somme, à mon avis, indépassable sur la vie, sur la carrière de la diva des divas, Maria Callas. Son auteur, Jean-Jacques Anine Roussel, est mon invité cet après-midi.
Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, Franck vous répondra à la question de Michel sur l'origine des notes de musique.
J'ai le sentiment d'avoir déjà dans le passé répondu à cette question. La répétition, n'est-ce pas, est la base de la pédagogie. Alors à propos de pédagogie et de répétition, je crois que Madame Callas nous attend.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Nous allons rendre aujourd'hui hommage à la passion, à la fragilité, à la provocation, à la timidité. Nous allons rendre hommage à la glace et au feu en même temps à travers Maria Callas. Une existence, celle de Maria Callas, qui nous fascine parce qu'elle est conçue, parce qu'elle est vécue comme une tragédie moderne. Un vilain petit canard devient un cygne majestueux. Le cygne se jette à corps perdu dans une passion où il va laisser beaucoup de plumes. Et puis, comme tout cygne, abîmé, vieilli, mais toujours sublime, il offre son chant ultime et il meurt. Maria Anna Sofia Cecilia Kalogeropoulos, c'est son vrai véritable nom, est née à New York, ce qu'on a tendance à oublier parfois. Elle est née en 1923. Ses parents, à l'époque, viennent d'émigrer en Amérique, comme le faisaient beaucoup de Grecs de l'époque, pour essayer de tenter l'aventure. Évidemment, le père est pharmacien. Quant à Madame Kalogeropoulos Evangelia, c'est une femme étonnante, passionnée, ambitieuse, une femme originale en somme. L'enfance de la petite Maria est marquée par la disparition précoce de son frère et par la primauté incontestable de sa grande sœur. C'est cette fameuse Jackie Callas qui, beaucoup plus tard, publiera une biographie intitulée Sisters, dont nous aurons l'occasion tout à l'heure de parler avec mon invité. La petite Maria se sent mal aimée. Il faut dire qu'elle n'est pas aidée. Elle n'a pas vraiment de forme. Elle est extrêmement myope, ce qui l'oblige à porter des lunettes pas très agréables. Je vous disais qu'elle n'a pas vraiment de forme. En fait, elle est très enveloppée. Il faut dire qu'elle passe son temps à avaler des sucreries. Elle n'a pas vraiment de charme. Bref, elle le dit elle-même. On me laissait dans mon coin. Ses petits camarades ont tendance à l'école à se moquer d'elle. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est la légende? Ça aussi, ça mériterait peut-être qu'on entre tout à fait dans le détail. Mais lorsqu'elle ouvre la bouche et qu'elle se met à chanter, alors d'un seul coup, cette voix étrange et magnétique qui s'échappe de Maria lui vaut de véritables regards d'amour, ce qui évidemment pour elle va faire naître une équation. Le chant est égal à l'amour d'une certaine manière. Elle fait toutes sortes de petits concours à l'école, à la radio. N'oubliez pas qu'on est dans les États-Unis de l'entre-deux-guerres. Une vocation est née. C'est là que la mère, Evangelia, entre en scène. Elle se sépare de son mari. Elle reprend le chemin de la Grèce avec ses filles. On est en 1937. Et évidemment, pour Maria, ça va être un changement extraordinaire. Pour commencer, comme le raconte Pierre-Jean Rémy dans sa biographie « Callas, une vie », ces dames vont changer de nom. Callas, dit-il, c'est bref et ça vous a un ton presque américain. Callas, c'est aussi l'anagramme, pas tout à fait parfait, mais c'est l'anagramme de Scala. Maria, début 1938, va entrer au Conservatoire National, pas au Conservatoire d'Athènes, qui est plus prestigieux, mais qui ne prend d'élèves qu'à partir de 15-16 ans. Donc elle ne peut pas y entrer encore. La première grande rencontre pour elle, ça va être celle d'un professeur de chant, une soprano sur le retour qui a chanté jadis avec tous les grands, avec Caruso, avec Chaliapine, bref, toute une époque. Elle est d'Espagnole d'origine, cette dame, elle s'appelle Elvira de Hidalgo. L'idée même que cette grosse fille ait pu songer à une carrière lyrique m'a paru risible, racontera-t-elle plus tard. Seulement, dès la première rencontre, Maria se chauffe un peu la voix, elle se met à chanter, et là, tout change. Sa voix jaillissait en cascade, racontera celle qui va donc devenir son premier professeur, encore peu maîtrisée certes, mais prenante, pleine de lyrisme et d'émotion. Et tout de suite, Elvira comprend qu'elle est en présence d'un véritable phénomène. Elle saisit tout le potentiel de sa nouvelle élève et elle le saisit peut-être d'autant plus facilement qu'en face, elle rencontre un grand caractère, une volonté d'acier, une mémoire phénoménale, une capacité étonnante à se couler dans ce qu'on lui demande. Sa voix est encore très malléable. Dites-vous qu'à la fin de ses premières études, Maria Callas possédera, ce qui est tout à fait incroyable, déjà 47 rôles.
Incroyable voix de Maria Callas à l'instant sur Europe 1 qui interprétait L'amour est un oiseau rebelle, extrait bien sûr de l'opéra Carmen de Georges Bizet. Maria Callas, la Divina, est à l'honneur cet après-midi sur Europe 1. Cette femme, Franck Ferrand, a bouleversé l'art lyrique au XXe siècle.
Oui, c'est en 1941 à l'Opéra d'Athènes que tout va vraiment commencer. Alors nous verrons tout à l'heure dans quelles circonstances assez extraordinaires. Mais c'est seulement 6 ans plus tard, en 1947, que Maria Callas va littéralement exploser, si j'ose dire, dans le rôle de la Gioconda de Ponchielli à Vérone. Entre-temps, elle a fait un deuxième séjour en Amérique. Elle tente sa chance puisqu'il semblerait que le Metropolitan serait prêt à lui confier le rôle de Madame Butterfly, vous imaginez? Eh oui, mais Maria, à l'époque, fait 85 kilos. Elle est assez imposante. Elle n'a pas, disons-le, ni la personnalité, ni surtout l'allure de la frêle et sublime japonaise. Bref, c'est un échec qui va la ramener en Europe. Elle fera plusieurs séjours. On y reviendra. On parlera du Mexique, notamment, tout à l'heure. Mais Maria Callas, désormais, va faire l'essentiel de sa carrière en Europe. Alors, à Vérone, donc, elle est de retour, à Venise, surtout à la Féniche, on lui propose des rôles plus adaptés, notamment la Brunehilde de la Valkyrie. Et elle va faire là 2 rencontres essentielles. D'abord, celle du chef d'orchestre Tullio Serafin, qui est littéralement emballé par cette voix tellement enveloppante, tellement particulière, émouvante bien entendu. C'est lui sans doute qui va compléter sa formation musicale. Il m'a appris, ceci est la base du bel canto, disait Maria, à ne jamais prendre une note ni par-dessous ni par-dessus, mais à l'attaquer en face. Il a mis en évidence l'existence d'une mesure rythmique propre à chaque oreille humaine. Une note trop longue n'est plus valable après un moment. Il faut juger du bon moment pour la faire mat. Si 2 Fermat et sont trop proches l'une de l'autre, apprendre à ignorer l'une d'elles, etc., etc. Donc vous voyez que c'est presque ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui des masterclass que prend Maria Callas auprès de Tullio Serafine. Elle n'est pas seulement une chanteuse, ça il faut bien le comprendre et on s'en rendra compte notamment dans les cours qu'elle pourra donner beaucoup plus tard. Elle est essentiellement une musicienne. Il faut, par ailleurs, et c'est la particularité de cette voix sur laquelle nous aussi nous reviendrons, il faut au chef d'orchestre et d'une façon générale à la formation qui accompagne Maria Callas, une subtilité particulière pour ne pas écraser ce que cette voix peut parfois avoir d'un peu ténu. Pas toujours, vous l'aurez compris. Tullio Serafine recommande Callas à différents directeurs de théâtre et notamment celui de la Scala de Milan. Et c'est bien entendu sur cette scène, la première scène du monde probablement, qu'elle va triompher dans Norma. Je vous dis que deux rencontres auront décidé du destin de Maria Callas. La première, c'était donc celle du chef Serafine. La deuxième, c'est celle d'un certain Giovanni Battista Meneghini. Ça, c'est une rencontre qui a lieu de façon plus classique, si je puis dire, dans un restaurant de Venise, où elle est là, en train de déjeuner, sans doute un peu mélancolique, et le regard un peu vague. Un homme l'aborde. Il n'est ni très jeune, ni très beau, mais il est pétrie d'admiration. Elle qui se croit si laide, voilà qu'elle inspire une admiration sans borne. Est-ce que c'est de l'amour? Je ne peux pas vous le dire. En tout cas, une chose est sûre, elle va l'épouser 2 ans plus tard et il sera vraiment son Pygmalion. Pour arriver à ses fins, Tista, comme elle le surnomme affectueusement, consacre une véritable fortune. Il y faut des médecins, des diététiciens, des couturiers, des coiffeurs, et tout ce monde se succède à la Villa Sirmione sur le lac de Garde, où il l'a installée. Maria, de son côté, ne se jette plus sur la nourriture désormais, et petit à petit, on la voit acquérir cette célèbre silhouette qui deviendra la fameuse silhouette longiligne d'une femme de 53 kilos. Ça ne s'est pas fait en un jour, évidemment, ça a été un travail et une sorte de victoire extraordinaire sur elle-même. Mais la véritable transformation de la chenille en papillon, on la connaîtra beaucoup plus tard. Et c'est à un grand artiste que Callas la doit, cette transformation. Après Hidalgo et Serafine, il faut parler de l'influence non plus vocale ou musicale, mais de l'influence artistique d'un certain Luchino Visconti, bien entendu. Vous savez qui est Visconti, ce grand aristocrate tenté par les idées d'extrême-gauche, ce personnage à l'élégance absolument suprême, qui va en quelque sorte compléter et qui va peut-être même remplacer l'éducation de Maria Callas et qui va, d'un point de vue artistique, l'encourager sur une voie nouvelle pour elle, celle d'une dramaturgie pleinement assumée. Il ne s'agit plus seulement de chanter, il s'agit pour elle d'interpréter, il s'agit de jouer. Elle va devenir ce qu'on pourrait appeler une véritable tragédienne lyrique. C'est Visconti, dit-elle, qui lui apprend le pouvoir des yeux, le pouvoir du regard. C'est une chose, bien entendu, pour une grande interprète que de faire des miracles avec sa voix. C'en est une autre d'être capable de glacer une salle comme elle le fait, notamment lorsqu'elle s'empare du couteau pour aller tuer Scarpia. Ça, c'est un moment extraordinaire. Le public est littéralement saisi et d'autant plus qu'elle sait ajouter à cela une posture, une gestuelle, un mouvement des mains assez extraordinaire. On le voit dans la Somnambule notamment. Et puis elle joue, quand je dis qu'elle joue, il y a un petit côté Actor Studio d'une certaine manière chez Maria Callas, notamment lorsqu'on la voit tousser dans la Traviata, bien entendu, les spectateurs finissent véritablement par y croire, hein. C'est assez extraordinaire. Lors d'une répétition de Médée à l'opéra municipal de Dallas, le metteur en scène grec Alexis Minotis la voit avec stupeur s'agenouiller brusquement et marteler frénétiquement le sol pour implorer les dieux, un geste à l'antique littéralement, mais qu'il n'aurait pas indiqué lui-même, parce qu'il connaît la gêne que cette attitude peut imposer à un chanteur, surtout dans ce qu'est l'opéra de l'époque. Évidemment, aujourd'hui, les chanteurs et les chanteuses d'opéra sont habitués à jouer. À l'époque, c'était beaucoup moins fréquent. Or, raconte Minotis, non seulement elle avait osé, mais rien dans sa voix ne trahissait l'effort. Elle avait le courage d'accomplir l'impossible.
Callas, extrait de l'opéra Faust de Charles Gounod, à l'instant sur Europe 1. Maria Callas, la diva, est à l'honneur cet après-midi. Franck Ferrand vous raconte son histoire. Vous pouvez bien sûr continuer, parce que vous êtes déjà très nombreux à nous envoyer des messages pour nous parler de Maria Callas. Rendez-vous sur Twitter avec le hashtag ACDH ou sur la page Facebook Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand revient dans un instant.
Europe 1, Au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Maria Callas, à l'honneur cet après-midi sur Europe 1, vous le savez, elle reste l'une des artistes exceptionnelles du dernier siècle, une vie professionnelle incroyable, une vie privée mouvementée. Elle était l'incarnation même, Franck, de la diva.
Alors je suis pour l'instant effectivement dans sa vie professionnelle. C'est une diva, vous avez raison, c'est ça. Il y en aura d'autres, bien entendu. J'ai eu la chance, moi, d'entendre Elisabeth Schwarzkopf, Teresa Berganza, Montserrat Caballé, tout récemment Cecilia Bartoli. Ce sont de très grandes divas. Mais Maria Callas a a été la première d'une certaine manière. Et qui dit diva dit extravagance, caprice, scandale, en tout cas à cette époque-là. Et je vous prie de croire que la carrière de Callas n'est pas dénuée de tout cela. On raconte ses exigences inouïes, son attitude assez difficile avec les partenaires masculins. Je pense à Giuseppe Di Stefano ou Mario Del Monaco notamment, qu'elle couvre de coups de griffes et de coups de pied dans les tibias. Ça, c'est ce que raconte Monaco. Sa rivalité également, bien célèbre, avec Renata Tebaldi, qui était peut-être du strict point de vue de la voix, mais j'ai très peur de dire ça devant l'admirateur absolu de Maria Callas qui se trouve avec moi dans ce studio, qui était peut-être supérieure à Maria Callas sur un strict plan vocal, mais qui, en tout cas, aura été sa grande rivale. Lors de la saison 54-55, Callas apparaît 31 fois à la Scala contre 5 pour Tebaldi, qui était depuis 1946 pourtant la reine de ce théâtre. Alors vous imaginez bien que ça ne se passe pas très facilement. Et Maria ajoute de l'huile sur le feu. Est-ce qu'elle peut chanter un soir Lucia de la mer mort, un autre Violetta, un autre encore la Gioconda et le lendemain Médée? Non. Alors qu'on ne me dise pas que nous sommes rivales, nous comparer, c'est comme comparer du champagne à du Coca-Cola, disait-elle. L'italienne s'exile donc en Amérique pour faire les beaux soirs du Metropolitan et la polémique va recommencer lors de l'arrivée de Maria à New York, justement. Dans le fameux article de Time Magazine, elle déclare que Renata Tebaldi est une artiste privée de colonne vertébrale. Réponse de l'accusé, il est possible que je n'ai pas de colonne vertébrale, mais en revanche, je possède quelque chose que Madame Callas n'a pas. Moi, j'ai un cœur, dit-elle. Ça faisait plaisir aux journalistes, tout ça. Ça alimentait la légende, évidemment. Elle est tellement particulière, cette Maria Callas. Elle est tellement, elle est présente sur tous les fronts à la fois. On va la voir avec Tebaldi se montrer très dure. On peut la voir se montrer aussi fragile ou même tendre. Il y a ce moment un peu étonnant. En 1958, c'est un peu le scandale du siècle. Le président de la République italienne, c'est le président Gronchi à l'époque, est accompagné du Shah d'Iran et de la Shah Banu dans la loge présidentielle de l'Opéra de Rome. On est venu écouter Norma. L'opéra n'est peut-être pas assez chauffé. Est-ce que Maria Callas a pris froid? Notre invitée a sur le sujet une idée très précise. Toujours est-il qu'elle va perdre son calme. Peut-être que aussi elle a entendu un titi qui aurait dit « Et ça nous coûte 1 million ?» Elle refuse en tout cas catégoriquement de revenir en scène après le premier acte. Alors vous imaginez le scandale. On la supplie, rien n'y fait. Et comme les chauffeurs officiels s'étaient éparpillés un peu ça et là parce qu'ils se disait que la représentation allait durer bien longtemps, il a fallu que le président de la République italienne rentre dans la voiture des pompiers. On dit que le directeur de l'Opéra de Rome y a perdu sa place et Maria Callas, disons-le, y a perdu une part, un petit, tout petit fragment de sa crédibilité. Il n'empêche, elle est devenue un véritable phénomène. La voix émouvante, le jeu si fort, si vrai, le sens inouï de la scène et l'intelligence du chant si limpide, si flatteuse pour le public. Maria Callas, c'est avant tout des grands airs, ce sont les splendeurs et les caprices de la diva, mais c'est aussi quelque chose de plus humain, c'est aussi quelque chose de plus fragile, et c'est là qu'intervient, si je puis dire, Maria. Derrière l'armure brillante et grandiose de la Callas, ce cache la triste Maria. Était-elle si triste? En tout cas, la timide Maria, qui va, sur un plan beaucoup plus privé, beaucoup plus intime, vivre des moments terribles, des moments qui feront les beaux jours de la presse à scandale. Nous y venons dans un instant.
Je ne suis que faiblesse, la voix de Maria Callas, extrait de Manon de Jules Massenet sur Europe 1.
Adieu notre petite table, mais on est bien chez Massenet et c'est de la musique française que j'ai choisi pour accompagner, vous l'aurez compris, cette émission.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
.fr.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Maria Callas, la diva, voilà, qui est, c'est elle qui est à l'honneur cet après-midi sur Europe 1 jusqu'à 15h. Vous pouvez continuer bien sûr à poster tous vos messages. On parle de cette artiste exceptionnelle avec vous, Franck Ferrand, cet après-midi. Vous recevez Jean-Jacques Anine Roussel, historien de l'opéra et ténor. Maria Callas, qui a eu une carrière exceptionnelle et une vie privée très mouvementée.
Et voilà, et c'est un peu ce que j'aimerais voir avec Jean-Jacques Anine Roussel. Bonjour monsieur, merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez écrit un livre absolument incroyable et c'est ce qui a justifié cette émission. On avait parlé de Maria Callas il n'y a pas très longtemps ici, mais quand j'ai reçu ce livre, je me suis dit qu'il fallait qu'on revienne sur le sujet car vous le renouvelez complètement. Vous nous proposez notamment un grand nombre de photos d'un naturel d'une fraîcheur assez étonnante. Ce sont des photos qu'on n'a pas l'habitude de voir pour beaucoup d'entre elles. Et puis, vous connaissez alors absolument tout. Vous connaissez les distributions, vous savez dans quel ordre elle a chanté quoi, quel soir. Enfin, c'est assez extraordinaire. Alors, l'artiste, je pense qu'on commence à la cerner un peu, mais la femme dans tout ça, vous ne l'oubliez pas dans votre ouvrage, loin de là. Vous nous présentez une femme qui est aussi vulnérable sur un plan personnel et sentimental qu'elle est invulnérable en apparence dès qu'il s'agit d'incarner un grand rôle.
Oui, je crois que vous avez parfaitement cerné la double personnalité de Maria Callas, une femme effectivement vulnérable dans sa vie privée, et cela, ça se verra surtout lorsque elle se sera séparée de son mari Giambattista Meneghini et lorsqu'elle vivra à Paris aux côtés d'Aristote Onassis. Mais une artiste particulièrement forte dans son domaine professionnel, imposant des distributions, rejetant tel ou tel partenaire qu'elle n'estime pas être à sa hauteur. Il y a donc ce double aspect, effectivement, du personnage. Alors, de Maria Callas.
Il faut dire que, j'allais dire, elle est venue au bon moment, mais d'autres, évidemment, chantaient en même temps qu'elle. Mais on est à cette époque où l'opéra se modernise considérablement, où les partitions sont souvent revues pour revenir plus proche de ce qu'elles étaient à l'origine, où les mises en scène prennent une dimension nouvelle. On confie d'ailleurs un certain nombre de grands opéras du répertoire à des metteurs en scène célèbres. J'ai cité Luchino Visconti, il faudrait citer Franco Zeffirelli, etc. Il y en a un certain nombre d'autres, bien entendu. Le cinéma s'en mêle également, la prise de voix, car c'est le début du disque, bien sûr. Et il y a un phénomène de ce qu'on appellerait, nous, aujourd'hui, de starification des chanteurs d'opéra. Maria Callas va se couler là-dedans, si je puis dire. Elle va devenir la diva médiatique avant l'heure.
Oui, et ce qui est important, comme vous l'avez relevé tout à l'heure, c'est le rôle qu'a pris Maria Callas, qui est devenue, et elle ne l'était pas au départ, qui est devenue une véritable tragédienne, parce qu'elle était entre les mains de grands. Vous avez cité les deux noms essentiels, Luchino Visconti et Franco Zeffirelli. Il y a aussi Margherita Wallmann, il y a d'autres metteurs en scène aussi, peut-être moins connus, qui ont joué un certain rôle dans sa carrière artistique. Mais ce qu'il faut souligner, c'est qu'au départ, ce n'était pas une comédienne.
Du tout, évidemment.
Pas du tout. Ceux qui ont connu ses premiers pas en Italie, dans la Gioconda, dans les premières représentations qu'elle a faites en Italie, ont tous unanimement témoigner que c'était une artiste qui était gauche. Sa façon de se mouvoir sur scène n'était pas évidente, n'était pas naturelle. Mais après, quand elle a travaillé avec les grands metteurs en scène que vous avez cités, elle est devenue une grande tragédienne.
D'ailleurs, une tragédienne qui n'a presque plus besoin de la musique. Je pense à Médée, hein, ce film célèbre.
Oui, tout à fait.
Hein,
tout à fait.
Où on la voit crever l'écran, littéralement. Et ce regard extraordinaire, un regard d'une puissance inouïe.
Quand vous avez parlé, je crois, tout à l'heure de Tosca, il y a un exemple topique. C'est celui que l'on voit quand on regarde le deuxième acte de Tosca au Covent Garden, puisqu'il a été heureusement préservé. Et quand on lit les souvenirs de Sarah Bernhardt qui explique comment elle a interprété son rôle, le rôle de l'ouvrage de Victorien Sardou, on voit que Callas a
s'inspiré de ça.
S'inspire complètement sa façon de jouer, de préparer le l'assassinat de Scarpia, c'est exactement ce que décrivait Sarah Bernhardt.
Le destin de Maria Callas, c'est l'histoire du triomphe d'une volonté et d'une force extraordinaire. Elle forge elle-même sa destinée. Ça, c'est assez étonnant.
C'est le triomphe, vous le dites parfaitement, c'est le triomphe d'une volonté. Peut-être, dans un domaine auquel on ne pense pas de façon évidente, c'est que au départ, quand Maria Callas est arrivée en Italie, elle ne savait pas s'habiller. Elle est arrivée à Mexico en 1950 avec un béret vert, un pull violet, une robe marron, un assemblage horrible de couleurs qui n'allaient pas entre elles. Et quand elle a descendu les marches de l'avion qui la conduisait à l'aéroport de Mexico, les membres de la direction du théâtre étaient complètement stupéfaits de voir celle qu'on décrivait comme une grande diva arriver dans un accoutrement épouvantable. Et là aussi, elle a appris grâce à Bicky, grâce à son gendre, qui était son collaborateur, elle a appris à se vêtir. Comme elle a appris à jouer, elle a appris à être la diva dans sa façon d'être, dans sa façon de s'habiller. Et ça aussi, ça forge l'admiration. Parce qu'elle arrive d'un extrême à l'autre. Elle peut, à force de volonté, elle arrive à parvenir à son but.
Et ça, évidemment, ça ne peut que forcer l'admiration. Vous avez cité tout à l'heure le nom de celui qui va définitivement rester accolé à celui de Maria Callas, c'est Aristote Onassis, bien entendu. Il est peut-être la dernière grande rencontre de sa vie parmi tous ces hommes qui auront contribué à forger son destin. Il lui fait livrer des roses à profusion dans sa loge au Met le 29 octobre 1956. En 57, il vient déjeuner avec le couple Meneghini à Venise. Il s'impose en quelque sorte et c'est l'année suivante qu'il va proposer à Maria cette fameuse croisière sur le yacht Christina, hein, qui est l'un des plus célèbres yachts du monde à l'époque. On peut dire qu'elle n'est pas la seule des personnalités importantes à bord, puisque Aristote Onassis a l'habitude de réunir sur le Christina tout ce qui se fait de plus incroyable au monde. Il y a Greta Garbo, il y a Winston Churchill, etc. Il se trouve que le mari de Maria Callas, Tista, comme elle l'appelle, a le mal de mer. Elle va donc être disponible pour Aristote. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que vous l'imaginez, vous, en tout cas.
Voilà. au départ, elle était un peu, c'est ce que l'on a affirmé, elle était un peu réticente à se rendre sur le Christina. Et puis, Tita, le mari de Callas, lui dit, écoute, ça nous fera des vacances gratuites, pourquoi ne pas accepter cette invitation? Et donc, en juillet 1959, elle part de Monte-Carlo, elle monte à bord du Christina, où elle retrouve donc Winston Churchill, Lady Clementine, l'entourage donc du vieux lion britannique, et donc ils partent pour une grande croisière, et c'est au cours de cette croisière que l'irréparable se produira, puisque elle décidera de quitter son mari, avec lequel elle avait vécu donc 10 ans, pour devenir la compagne de l'armateur grec.
Alors elle devient sa compagne, mais c'est une relation à éclipse et c'est une relation difficile. Là, ce sont deux très grands caractères qui vont s'affronter l'un à l'autre. Nous y venons en votre compagnie dans un instant.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Thank you.
l'air des clochettes avec la voix de Maria Callas à l'instant sur Europe 1. C'est un extrait de l'opéra de l'Acmé de Léo Delibes. C'est d'ailleurs un extrait du coffret 3 CD Maria Callas, la renaissance d'une voix, paru chez Warner Classic, paru en novembre 2014. Un album Europe 1 que vous trouvez encore partout. Alors Franck Ferrand, vous recevez cet après-midi Jean-Jacques Anine Roussel, historien de l'opéra, pour nous parler de la diva. Effectivement, cette femme incroyable à la voix d'or et au regard de feu et au tempérament de feu, qui a été amoureuse d'Aristote Onassis.
Oui, elle était très amoureuse. Lui, est-ce qu'il était amoureux d'elle, d'après vous? Quel est le regard que vous portez sur cette affaire, Jean-Jacques Anine Roussel?
Il est possible qu'il ait été amoureux d'elle, mais il l'a été d'une façon très, très originale, hein, parce que l'entourage, les collaborateurs domestiques, aussi bien de l'armateur grec que de la diva, ont raconté à de nombreuses reprises que les moments où le couple était ensemble étaient souvent très orageux.
Ah oui.
Il était fréquent qu'Aristote Onassis battait Maria Callas, qui dissimulait les ecchymoses avec du fond de teint. C'était effectivement un couple particulier.
Est-ce que Maria Callas reste la même à partir du moment où elle est avec Aristote Onassis? Est-ce qu'on ne peut pas constater une sorte d'inflexion dans sa carrière, tout simplement?
Si, vous avez parfaitement raison. Autant sa carrière passait au premier plan tant qu'elle était l'épouse de Meneghini, autant elle passe au deuxième plan quand elle devient la compagne d'Onassis.
Sa vie devient plus importante, en quelque sorte.
Absolument,
c'est ça ?
Oui. Absolument. La cantatrice avait le devant de la scène, si je puis dire, à l'époque de Meneghini, et la mondaine l'emporte quand Maria Callas devient la compagne d'Onassis. C'est vrai. Et la carrière à ce moment-là...
Elle passe beaucoup de temps alors à Paris, bien sûr, mais aussi à Monaco, à l'époque.
Absolument.
Hein,
oui. Absolument. Du reste, Maria Callas avait un appartement à
Monte-Carlo,
Monaco.
Oui.
Et elle passait son temps à l'hôtel de Paris, à l'Ermitage, etc. On
oui,
la voit...
Elle était proche du couple princier, du prince Rainier et de la princesse
tout
Grâce.
Tout à fait. Hein. Tout oui. à fait. Tout à fait. Et du reste, le fait que sa langue maternelle était l'anglais, la rapprocher bien sûr de Grace Kelly.
Oui, parce qu'on oublie parfois hein, qu'elle est née aux États-Unis et qu'elle y a passé son enfance, toute son enfance, une partie de son adolescence. On la voit toujours comme la grecque suprême. Ça l'aidait en quelque sorte d'insister sur cette identité grecque, mais au fond du fond, elle était quand même plutôt américaine.
Oui, hein. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Et du reste, ce qui a été important pour elle, un certain niveau de sa carrière, c'est de pouvoir chanter aux États-Unis. Elle a d'abord commencé à chanter à Chicago, elle a chanté au Met, après elle a chanté à Dallas. C'était important pour elle.
Elle va mourir en 1977, elle meurt le 16 septembre 1977. Alors tous ceux qui l'ont connue, approchée ou qui en ont à l'époque, qui ont suivi ces tribulations, nous décrivent une femme qui à la fin était devenue assez neurasthénique, qui était loin de tout et de tous, qui passait des journées dans son appartement à réécouter les grands enregistrements du passé. C'est une fin triste.
Tout à fait. C'est vraiment une fin triste parce que quand on sait... à quel point Maria Callas avait été encensée pendant sa carrière. Lorsqu'elle arrive à Paris, ben c'est la parabole descendante. Elle se retrouve très souvent seule dans son appartement avec ses domestiques, avec lesquels elle passe son temps, en écoutant ses anciens enregistrements, en regardant la télévision. C'est une fin très triste. Elle refuse parfois des invitations parce qu'elle n'a pas envie de sortir. Donc elle
Est-ce
fait
qu'on
dire...
peut dire d'Onassis qu'il l'a délaissée d'une certaine manière?
Je dirais d'Onassis qu'il a tué la cantatrice. C'est, pour moi, c'est bien précis. Il a tué la cantatrice. Or, qu'est Callas sans le chant et sans sa voix?
Alors cette voix, on l'entendait tout à l'heure, on entendait les vocalises qui préludent à l'air des clochettes de l'Acmé, hein, de Delibes. C'est quand même une voix qui n'est pas banale, si je puis dire. On n'est pas du tout dans l'habitude avec Maria Callas. Elle a une voix qui n'est pas celle d'une grande soprano d'opéra habituelle. Il y a des inflexions, il y a des faiblesses même, disons-le, mais en même temps, il y a beaucoup d'émotions.
Oui, c'est vrai. Alors... ce qui caractérise effectivement...
Vous avez remarqué que je prends de grandes précautions pour ne pas vous heurter du tout.
Non. Mais je n'ai pas la prétention de tout savoir et de tout connaître. Mais vous avez parfaitement raison de dire que la voix de Maria Callas n'est pas une belle voix foncièrement. C'est ce que je dis, je crois, dans le premier chapitre de mon livre. Mais au même titre que deux autres grandes voix du XXe siècle, que Magda Olivero et Leila Genger, ce sont des voix qui émeuvent.
C'est ça.
Aussi parce que ces trois cantatrices sont de grandes tragédiennes, qu'elles sont habitées par leur rôle, et donc, à ce titre, elles émeuvent. J'ai eu autour de moi des amis qui ont vu Renata Tebaldi sur scène, et qui sont restés quelque part déçus. Parce que
le jeu était plus froid, incontestablement.
Ah, complètement, oui. Complètement. Oui, quand Renata Tebaldi est venue chanter à Paris, elle a chanté Tosca, elle a chanté Aïda, on ne ressentait pas la même chose. Tandis que quand Callas est venue chanter, en particulier Norma en 64 et 65, elle était à la fin de sa carrière, mais tous ceux que j'ai interviewés m'ont dit qu'à peine on voyait le bout de son pied, il y avait quelque chose de magique.
De magnétique, en quelque sorte.
De magnétique.
Alors, je précise, vous n'avez pas entendu ni vu du reste Maria Callas sur scène.
Je ne l'ai pas vu sur scène.
Ça doit être un regret terrible parce que vous savez tout d'elle. De quand date cette passion et comment avez-vous réuni tous ces documents, ces photographies, ces programmes, ces, bien entendu, tous ces enregistrements sur Maria Callas?
Alors, je n'ai pas connu effectivement Maria Callas sur scène. Je n'ai pas vu ni connu. Par contre, j'ai connu à peu près une centaine de ses partenaires sur une quarantaine d'années. Grâce à
vous
eux,
vous l'avez cerné, si je puis dire.
Ah, complètement. J'ai eu donc grâce à eux beaucoup de témoignages, de photos, d'articles. Et c'est en réunissant toute cette masse de documents que j'ai pu donner naissance à ce livre.
Est-ce que vous avez une idée précise de ce dont est mort, de ce dont est morte, Maria Callas en 1977? Est-ce qu'on peut le savoir?
Alors, on ne peut pas le savoir et je pense qu'on ne pourra jamais le savoir parce que, pour dire le vrai,
les personnes qui étaient témoins, en fait, ne parleront jamais.
Et deux autres personnes auraient pu parler, Vasso de Vezzi, qui se présentait comme la
pianiste,
grande amie de Callas, la pianiste, et son compagnon, mais eux non plus n'ont pas parlé. On peut dire une chose, on peut dire que l'abus que Maria Callas faisait du mandrax, du psychotrope qu'elle consommait depuis des années et des années, a sans doute joué un rôle dans sa fin. A sans doute, parce que le mandrax avait, du reste il a été retiré du marché, il avait des effets secondaires tels qu'on peut croire qu'il a contribué à procurer la mort de Callas.
Ce qui lui est arrivé en 1958 devant le président de la République italienne, vous avez une interprétation bien précise de cet événement.
Oui, effectivement. Alors, ce n'est pas moi. Vous êtes bien aimable de m'attribuer la paternité de cette thèse, mais c'est pas moi qui en suis l'auteur, à vrai dire. Ce sont deux médecins italiens qui ont considéré que Callas était, dès 1958, malade de la maladie, la dermatomyosite,
qui
affecte les muscles et qui
l'enveloppe
aurait
des
été,
muscles, en fait, hein, c'est
voilà,
ça.
Tout à fait, et qui aurait été donc
à l'origine de son malaise, disons.
Voilà. Mais de toute façon, Callas le disait, quand elle était à Paris, elle recevait la visite d'une jeune amie dont je reproduis le témoignage dans mon livre, et Callas ne cessait de dire « je suis une femme malade ». Mais elle l'était. On ne la croyait pas, mais elle l'était.
Oui, on pensait qu'elle faisait un peu de... qu'elle en rajoutait un peu, qu'elle était malade comme avait pu l'être Sarah Bernhardt, mais en fait, c'était vrai, hein, ce que vous dites.
Oui, c'est vrai. Oui. Tout à fait, c'était
Alors,
vrai.
Alors, je ne voudrais pas qu'on reste sur ces notes un peu douce-amères de 1977. Revenons peut-être, pour finir, un instant au moment suprême de la chanteuse. Quel est, selon vous, l'apogée de cette carrière? S'il y avait une année à citer En quelle année faut-il aller chercher la Grande Calas ?
La Grande Calas, manifestement, on doit la chercher en 1952. On a la chance de...
C'est précis.
On a la chance d'avoir, heureusement, beaucoup de témoignages de cette année. Les 5 opéras qu'elle a interprétés au Palacio de Bellas Artes de Mexico. On a aussi l'époustouflante Armide au Met Musical Florentin. On a les débuts au Covent Garden dans Norma. On a l'unique Macbeth à la Scala de Milan. Et je crois qu'on peut, on peut situer en 1952 l'apogée de la carrière de Calas. C'est vraiment, elle a fait vraiment que des merveilles.
Et à ce moment-là, donc, à Mexico, en 52, elle est au sommet de son art, c'est ce que vous nous dites.
Hein. Elle est au sommet de son art.
En tout cas, de son art vocal, parce que elle va bien sûr progresser par la suite du point de vue dramatique et devenir, comme nous le voyons avec vous, une interprète à part entière. On écouterait volontiers Maria Callas tout l'après-midi, mais il va falloir la quitter pour la retrouver très vite, Jean-Jacques Anine Roussel, dans votre très bel ouvrage. Maria Callas, c'est la signature de Maria Callas en couverture de ce coffret hein, aux éditions Carpentier, avec plus de 300 photos inédites à réserver aux fans, mais pas seulement.
Restez avec nous sur Europe 1 dans un instant, le retour aux origines. Nous allons continuer à parler musique avec la question de Michel, c'est dans un instant sur Europe 1.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et aujourd'hui, pour vous, Franck, une question de Michel sur le site europe1.fr. Alors, après avoir parlé de Maria Callas, c'est une émission vraiment qui s'adresse aux mélomanes aujourd'hui, puisque Michel voudrait savoir qui a inventé les notes de musique.
Ah, vous savez que pendant longtemps, je parle là du Moyen-Âge, je ne vais pas vous parler de l'Antiquité, il y aurait beaucoup à dire, mais pendant longtemps, la musique et les chants s'improvisaient, il y avait une transmission orale et non écrite, et on passait, avec des polyphonies, on se transmettait en quelque sorte les chants. La notation musicale va apparaître progressivement dans le cours du Moyen Âge. L'idée de la portée remonte au Xe siècle grâce à un moine des Flandres qui s'appelle Ubald. Il s'agit de faciliter la lecture de la musique. Bien entendu, on n'en sait pas beaucoup plus sur le sujet. Les notes étaient désignées à l'époque par des lettres de l'alphabet, ce qu'on voit d'ailleurs encore dans les pays anglo-saxons, ou ce qu'on a revu pour être encore plus exact. Mais c'est au moine Guido d'Arezzo, on est au 10-11e siècle, que nous devons les fameuses notes telles que nous les connaissons, nous. On est aux alentours de 1028-1030. Et pour nommer les notes, Guido d'Arezzo va utiliser les 7 premières syllabes des premiers vers d'un poème latin de Paul Diacre. Et en fait, c'est un poème qui monte en gamme comme ça progressivement. Donc ça donnait « ut queant laxis, re sonare fibris, mira gestorum, famuli tuorum, solue poluti, labi Reatum, Sancte Ioannis, vous les avez toutes. Alors, sauf que le Do s'appelait le Ut, il sera remplacé en 1673 par Giovanni Maria Bononcini, qui est un musicologue italien, c'est lui qui va donner à Lut sa nouvelle appellation Do.